I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, c'est les desserts. Miam, miam, miam.
J'ai goût très bien.
Miam, miam.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast qui parle de sexualité et de société. On a évoqué dans les derniers épisodes le sexe bucogénital. Et l'un de vous, derrière l'écran, les oreillettes, nous a contactés pour nous demander quels étaient les risques de contamination au VIH ou aux autres IST, infections sexuellement transmissibles, en pratiquant le sexe oral. J'ai contacté Masha Lenievski de 6 associations qui fait de l'aide à distance par mail, chat et téléphone.
Je m'appelle Masha Lenievski, je suis donc écoutante et également chargée de mission santé sexuelle et public LGBT à 6 associations.
L'IST, c'est quoi ?
IST, donc déjà, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Les infections donc, qui sont provoquées par des différents microbes, que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites. Et ces derniers, en fait, peuvent se transmettre, alors plus ou moins facilement selon les pratiques, comme on va le voir un peu plus loin, au cours des relations sexuelles. Et donc, parmi ces IST, les IST les plus connus, on va retrouver le VIH, le gonocoque, les chlamydia, la syphilis, les condylomes, les herpès génitales et les hépatites.
On a reçu des questions à propos de la fellation et du cunnilingus, de savoir si on pouvait tomber malade, être contaminé après avoir reçu une fellation ou un cunnilingus. On va d'abord s'intéresser à la fellation. Cas numéro 1, j'ai reçu une fellation. Ça veut dire qu'on m'a sucé le pénis. Quel est le risque d'être contaminé par soit le virus du sida, soit une autre IST ?
Lorsque l'on reçoit donc une fellation, on ne peut pas considérer ça comme un risque pour la transmission du VIH. En dehors donc des pratiques collectives, où là on peut recevoir des fellations successivement par plusieurs personnes, là on peut se poser la question d'un risque de transmission pour le VIH. Lorsque l'on reçoit également une fellation, on peut s'exposer à certaines IST, infections sexuellement transmissibles, comme par exemple la syphilis, le gonocoque, l'HPV, donc papillomavirus, l'herpès et les chlamydia.
Cas numéro 2, j'ai fait une fellation à quelqu'un qui est contaminé, soit par le VIH ou une autre IST. Quel est le risque ?
En ce qui concerne le fait de faire une fellation, là c'est un petit peu différent, parce que le fait de faire une fellation peut être cette fois-ci un risque pour la contamination du VIH. Alors, c'est un risque qui est quand même considéré comme faible, mais pas inexistant, notamment s'il y a éjaculation dans la bouche. Donc là, ça peut comporter un risque où il y a donc contact entre le sperme ou le liquide préséminal et la muqueuse de la bouche de la personne qui pratique la fellation. Et ce risque est d'autant plus important si lorsque l'on fait une fellation, nous avons ce qu'on appelle une gingivite ou angine ou des candidoses. Donc, des maladies en fait, de la bouche qui provoquent des lésions ou des plaies ouvertes et récentes qui peuvent être dues à des soins dentaires ou des traumatismes buccaux. Également, si la personne qui fait la fellation a des lésions qui sont liées à d'autres IST, les IST dont on a parlé un peu plus tôt, ou encore si la personne à qui on fait la fellation est par exemple ce qu'on appelle en primo-infection pour le VIH, c'est-à-dire quelques jours, semaines, juste après s'être nouvellement infecté au VIH.
J'ai fait une fellation à quelqu'un qui est contaminé par une autre IST. Quel est le risque ?
Lorsque l'on fait une fellation, on est à risque de contracter d'autres IST, donc d'autres infections sexuellement transmissibles. Et donc là, on va retrouver par exemple les chlamydia, le gonocoque, l'hépatite B, le HPV, donc papillomavirus, la syphilis et également l'herpès. Et donc c'est là où on conseille également l'utilisation du préservatif. Et notamment, ce qu'on peut entendre beaucoup et qu'on déconseille, ou du moins qui n'a aucune efficacité, c'est qu'il n'existe aucune technique efficace de se laver la bouche après une fellation afin de limiter un éventuel risque de transmission de ces IST. Seule la protection est importante.
Maintenant, passons au cunnilingus. Cas numéro 1, j'ai reçu un cunnilingus, un baiser sur la vulve, le clitoris, l'entrée du vagin. Quel est le risque d'être contaminé par le VIH ou une autre IST ?
Lorsque l'on reçoit un cunnilingus, il faut savoir que le cunnilingus n'est pas une pratique à risque de transmission pour le VIH. Par contre, il peut y avoir des risques pour d'autres IST, notamment l'herpès. Par exemple, si la personne qui nous fait un cunnilingus a un bouton de fièvre et nous et pratique un cunnilingus à la suite de ça, il peut y avoir transmission de ce bouton d'herpès. On a également des risques pour l'HPV, le papillomavirus. Plus rarement, le gonocoque et les chlamydia, et très rarement la syphilis. Ça reste globalement la pratique la moins à risque concernant les IST.
Cas numéro 2, j'ai fait un cunnilingus à quelqu'un qui a le VIH ou à quelqu'un qui a été contaminé par une autre IST. Quels sont les risques ?
Là encore, le fait de faire un cunnilingus n'est pas à risque pour la transmission du VIH, mais est à éviter tout de même en période de règles et en période de menstruation, donc, où il peut y avoir une quantité de sang importante, et là, ça peut être un peu plus à risque pour le VIH. Et en ce qui concerne les IST, on peut retrouver éventuellement l'HPV, le gonocoque, plus rarement, les chlamydia également plus rarement, l'herpès et également plus rarement la syphilis. Encore une fois, c'est une pratique qui reste la moins à risque pour la transmission des IST.
Après avoir pratiqué donc, le sexe oral, bucogénital, quels sont les signes qui pourraient révéler une infection ?
On peut retrouver plusieurs symptômes dans les infections sexuellement transmissibles, des brûlures en urinant. Donc ça, on va retrouver surtout chez les personnes ayant un pénis, dans les infections notamment gonocoque et chlamydiose. On peut retrouver des pertes vaginales également et des vaginoses, notamment dans les chlamydioses, donc infections à chlamydia. On peut retrouver également des boutons au niveau de la région des organes sexuels, comme notamment avec l'herpès ou même sur l'ensemble du corps avec la syphilis. Également des ulcérations, c'est possible aussi, c'est en fait des plaies au niveau des organes génitaux. On peut le retrouver là également dans la syphilis ou l'herpès. On peut retrouver des démangeaisons avec le virus de l'herpès et également lorsqu'on a des condylomes. Donc les condylomes, c'est des sortes de verrues qui sont dues au papillomavirus, donc le virus de l'HPV dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est un peu globalement tous les signes qu'on peut trouver. Et lorsqu'on a des symptômes, il est important d'aller consulter donc rapidement un médecin qui pourra faire un diagnostic et proposer un traitement. Donc dans des centres de dépistage anonymes et gratuits, ou alors on peut également aller voir son médecin de ville. On lui expose toute la situation, il pourra donc proposer de faire des analyses ou des traitements. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines IST, et dans la majeure partie des cas, sont asymptomatiques. Donc en fait, on peut être porteur sans avoir absolument aucun symptôme. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller faire un dépistage régulier.
Et toujours de se protéger.
Exactement.
Avec la star numéro 1 depuis de nombreuses et nombreuses années, le préservatif, tout d'abord.
Voilà, exactement. Préservatif masculin, ce qu'on appelle un préservatif masculin qui est facile d'accès, mais également le préservatif qu'on appelle féminin ou préservatif interne, qui est un peu plus difficile d'accès, mais tout aussi efficace.
Merci à Masha Leniewski de 6 associations pour cet échange. Vous avez une question de santé et de sexualité ? Vous pouvez nous laisser un message vocal sur 20minutes.fr ou nous écrire à audio@20minutes.fr. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.